Pascal et bonjour Stanislas.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Bienvenue à cette session, nouvelle session sur MBA. On va parler aujourd'hui d'une fonctionnalité très populaire de Windows 8. Sur laquelle on a vu vraiment beaucoup d'engouement auprès de nos clients et puis auprès de l'écosystème, c'est tout simplement Windows to Go. Windows to Go, qu'est-ce que c'est déjà?
Alors Windows to Go, ben, c'est bien simple, hein. C'est un système d'entreprise, c'est-à-dire que c'est un Windows client qu'on va coller sur une clé USB bootable, de façon à avoir un système complet démarré et qu'on va pouvoir démarrer depuis ce support externe. Alors je dis clé USB, mais ça peut être également un disque dur externe, un disque dur USB, qu'on va pouvoir brancher et démarrer dessus en fonction des capacités de notre machine physique. Donc ça nécessite une édition entreprise de Windows 8 ou 8.1. C'est une des quelques fonctionnalités qui nécessite encore cette distinction, hein, ce SKU Windows 8 entreprise, pour fonctionner. Ça se comprend un petit peu, on est dans des scénarios très entreprises pour Windows to Go.
Alors c'est quoi les Stanislas, les scénarios qu'on a vu autour de Windows to Go jusqu'à présent?
Il y en a plusieurs en fait. Il y a le scénario par exemple du prestataire qui vient avec son PC de son entreprise à lui, mais qui vient travailler chez un client dont c'est une autre infrastructure. Et le client veut fournir un poste standardisé à son entreprise, à ce prestataire. Donc l'idéal, effectivement, c'est de lui fournir sur un support amovible ce système qu'il va pouvoir démarrer depuis son PC personnel et non pas celui du PC d'une entreprise. Donc ça évite comme ça pour l'entreprise à avoir des PC prêts à donner à l'emploi aux prestataires qui vont venir, les consultants, les stagiaires, éventuellement, etc. etc. Ça, c'est un premier scénario. Notre scénario, c'est qu'il y a un léger dérivé, c'est le Bring Your Own Device. De plus en plus, les utilisateurs, ils ont leur petit PC à eux qui brille, qui est plus sympa que le vieux PC beige en entreprise. Ouais, et du coup, ils se disent, moi je préférerais travailler avec mon PC à moi, mais bon, on a envie de faire quand même une séparation du personnel versus le privé, et là c'était encore un bon cas d'usage. On a également l'usage d'endroits en libre-service, sur lequel effectivement chaque bureau a un PC, mais finalement, il va simplement booter sur une clé qui sera l'environnement propre de l'utilisateur. C'est donc idéal également pour voyager léger. Et puis, c'est un moyen, par exemple, de travailler à la maison. Alors là, ce n'est pas du bring your own device, c'est plutôt use your own device. Quand on est à la maison, qu'on a un PC avec un écran assez grand, etc., et qu'on fait du télétravail, des fois, c'est pratique de pouvoir effectivement démarrer son environnement de travail simplement depuis une clé USB en s'isolant par rapport, en fait, aux données et aux PC existants. On va juste consommer en fait la puissance de la machine et non pas les disques durs.
Alors c'est un PC sous Windows classique, hein. Ça veut dire qu'on va utiliser toute la stack classique de Windows, on va pouvoir mettre en œuvre tous les scénarios de type c'est une machine qui est dans le domaine, c'est une machine qui va appliquer des GPO et puis on va pouvoir lui faire profiter des scénarios d'entreprise intéressants comme Direct Access. Donc on aura une clé qui sera chiffrée, qui aura la possibilité d'être vraiment un poste de travail complet de l'entreprise et qui permettra d'être productif quel que soit l'endroit où on est. En matière de sécurité, Pascal?
Alors en matière de sécurité, tout est axé sur la protection contre la fuite de données. En fait, on a d'abord une double fonctionnalité qui est symétrique, qui consiste à isoler l'accès au disque entre le disque interne à la machine sur laquelle on va s'exécuter et puis le support flash qui est sur la clé USB sur laquelle on a son propre système et éventuellement des données personnelles de l'utilisateur qui sont stockées sur sa clé. Donc une fois qu'on a démarré sur Windows to Go, sur une clé Windows to Go, en fait on n'a plus accès au disque interne de la machine. C'est simplement une SAN policy, hein, entre guillemets, c'est le terme consacré dans les outils, notamment DiskPart, qui dit que les disques locaux ne sont pas online, ils sont offline. C'est-à-dire qu'on va les voir si on est administrateur, mais ils sont offline. Réciproquement, si on insère une clé Windows to Go dans une machine qui exécute déjà son Windows depuis son disque interne, le volume qui est présent sur la clé USB ne va pas être monté dans l'OS qui s'exécute, puisque simplement il y a un flag qui indique sur la partition qu'il ne sera pas monté sous la forme d'une lettre. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder si on est administrateur, mais ça veut dire qu'on va éviter les fausses manips, simplement entre les deux environnements, personnel, professionnel, etc. Et puis on a une autre fonctionnalité qui est BitLocker. Donc BitLocker, on connaît ça depuis Windows Vista. Hein. Donc on peut l'activer sur Windows to Go, donc sur les supports amovibles Windows to Go. Simplement, le scénario Windows to Go fait qu'on va pouvoir s'exécuter sur différentes machines. Donc on ne va pas pouvoir se baser sur un TPM d'une machine. Et donc on a introduit pour Windows to Go un autre protecteur de clés supplémentaire pour BitLocker qui est un mot de passe simple qu'on va taper ou au démarrage de la machine sous la clé USB.
Alors, petite subtilité pour le mot de passe peut-être.
Alors, petite subtilité qui a son importance, c'est que on va le taper sur un clavier QWERTY au démarrage de la machine. On n'a pas encore les drivers qui sont montés, et donc on est en QWERTY.
Ouais. Ce qui du coup peut poser des problèmes si le mot de passe contient probablement la lettre A, Q, Z, W, M, N. Les chiffres également, ce qui du coup limite un petit peu le mot de passe. Donc, trouver une manière subtile d'orienter l'utilisateur vers un mot de passe qui ne contiendrait pas tous ces.
Il s'agit évidemment d'une fonctionnalité de sécurité supplémentaire prévue pour BitLocker.
Designée par les Américains.
Absolument. Alors, on a la possibilité aussi de disposer d'autres fonctionnalités de Windows. Hein.
Toutes les autres fonctions de sécurité de Windows sont disponibles, comme le Trusted Boot, pour s'assurer que le Windows qu'on va exécuter là-dessus est bien celui qu'on y a installé. Et puis, des choses comme les workfolders, qui vont permettre notamment de synchroniser ces fichiers de travail entre l'entreprise et mon Windows qui existe sur ma clé USB. Bah, donc, ce qui est plutôt pratique dans ce genre de scénario où la clé USB, on peut la perdre, on peut... Elle peut ne plus marcher, on peut y marcher dessus.
C'est en plus du volume NTFS, donc on peut faire de l'EFS dessus, du chiffrement de fichiers, en plus, au-delà du volume qui est déjà chiffré avec BitLocker. Hein.
Exactement, tout à fait. Donc si on la perd, c'est pas grave, elle est chiffrée, elle peut être doublement chiffrée avec les workfolders, et les fichiers seront synchronisés. Donc c'est un bon scénario, effectivement.
Alors, l'idée, quand même, c'est si on perd la clé, on perd la valeur de l'objet, ce qui ne représente rien à l'échelle d'entreprise. Non, pas la valeur effectivement de ce qu'il y a dans la clé, c'est les données, les secrets en termes d'identifiant utilisateur, l'accès au système d'information et puis potentiellement des informations sensibles.
Alors, on a bien compris, c'est un poste de travail qu'on va créer. Comment est-ce qu'on fait pour créer tout ça, Pascal?
Alors, pour créer une clé Windows to go, ben c'est assez simple. Dans le principe, c'est assez simple. Ensuite, on verra plusieurs déclinaisons du principe. Le principe, c'est qu'il faut une image de Windows 8.0 ou 8.entreprise. L'image qu'on va coller sur la clé USB. Donc cette image, elle peut être personnalisée ou non, hein, ça peut être le truc standard, ou notre image d'entreprise avec nos applications, notre personnalisation, etc. Une image, c'est quoi? C'est un fichier WIM de Windows. On connaît, tous les gens qui déploient des Windows connaissent ça. Ensuite, il faut des clés USB qui sont compatibles avec Windows to go. Donc des clés USB compatibles avec Windows to go, c'est quoi? Ce sont des clés USB certifiées Windows to go. C'est simple, hein, c'est simple à retenir. S'il n'y a pas le logo certifié pour Windows to go dessus, il ne faut pas acheter pour faire des Windows to go. C'est aussi simple que ça. Ça marchera mieux si c'est certifié et on aura des performances correctes. Et on aura du support de Microsoft, ce qui est le plus important. Et puis enfin, il faut un outil pour transférer l'image sur la clé. Donc il y a plusieurs solutions à ça. On va voir dans les minutes qui viennent quels outils on peut utiliser.
Bon, alors le scénario, on a déjà vu, on ne revient pas dessus, Stanislas. Voilà. Donc les outils, hein, qui est déjà prévu par défaut dans Windows.
Voilà, qui s'appelle pwcreator.exe. Alors on ne voit pas qu'il s'appelle pwcreator, mais c'est, ça a son petit intérêt par rapport à ce qu'on dira tout à l'heure. Donc c'est en fait un assistant qui est inclus dans Windows. Alors comment ça se passe? Je vais vous le montrer en deux secondes. Comment se passe cet outil? Donc, déjà, j'ai dit, il faut une image de Windows 8 entreprise. Donc je vais dans mon répertoire où j'ai mes images de Windows, qui s'appelle image, ça tombe bien. Et je vais charger, donc monter dans mon file system, une image de Windows 8 entreprise 8.1 français avec l'update, le dernier update de Windows 8.1. Donc en double-cliquant dessus, hein, je le monte en tant que lecteur de DVD des deux points. Il me faut une clé compatible, donc là j'ai pris une Kingston dont on reparlera tout à l'heure, Data Traveler Workspace 64 Go, voilà, qui soit compatible, donc elle est certifiée Windows to go. Et puis il me faut l'outil, la troisième chose c'est l'outil. Et l'outil, comment je le trouve? Je fais Windows W pour chercher dans mes paramètres de Windows, hein, comme on connaît tous, les raccourcis. Je cherche Windows to go, en fait je cherche dans le panneau de configuration de Windows, hein, c'est tout bête, et je clique sur Windows to go. Donc pour avoir cette option Windows to go dans mon panneau de configuration, c'est là qu'il faut avoir son entreprise aussi, son Windows entreprise. Si on n'a pas l'option, c'est qu'on n'a pas une version entreprise de Windows.
Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'il faut, pour créer la clé Windows to go, faire l'opération depuis un poste qui est déjà lui-même un Windows 8 entreprise et avoir une clé compatible.
Tout à fait. Donc l'assistant, je vais cacher ça, donc, l'assistant a trouvé ma clé qui est compatible, il est content, Est-ce que j'ai le zoom qui est activé? Non. Je suis trompé de touche, c'est contrôle. Donc on voit qu'il a trouvé ma clé USB Kingston compatible. Je la sélectionne. Il trouve automatiquement que j'ai bien monté une image de Windows 8.1 Entreprise, donc qui est compatible. Il a trouvé le fichier .wim correspondant. Si je ne l'avais pas monté dans un répertoire standard, source, etc., et que j'avais simplement mon fichier WIM sur mon disque, j'aurais cliqué sur Add Search Location et puis j'aurais trouvé mon fichier WIM, évidemment. Suivant, on a le choix d'activer ou non BitLocker. Donc par défaut, ce n'est pas coché, on conseille fortement de le cocher. Donc on va mettre un mot de passe un petit peu complexe, mais pas trop vis-à-vis des caractères des claviers QWERTY. Donc pas cet exemple-là, hein, c'est un mauvais exemple, mais bon. Next. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur Create et l'image va être copiée sur la clé USB. Donc on ne va pas attendre les quelques minutes nécessaires. On va annuler ça ici.
Est-ce qu'on a besoin d'un port USB 3 pour la création de la clé?
Alors, on a besoin d'un port USB 3 si c'est une clé USB pour la création de la clé. Si c'est un disque dur externe, ça marche dans certains cas avec des disques durs externes USB 2.
D'accord. Donc, quand même fortement
recommandé. Ça marche, ça arrive que ça marche.
J'ai réussi à le faire fonctionner, hein, pour la petite anecdote, sur effectivement un disque en USB 2, un disque externe en USB 2.
Ouais. Je l'ai fait aussi, mais je ne sais plus si j'étais connecté en fait à l'USB 3.
Mais il n'y aura pas de support.
Dans tous les cas, ça permet comme ça de transférer plus rapidement l'image. Donc voilà.
Donc c'est pas le seul critère, hein, pour que ce soit compatible. Il y a l'USB 3, mais il y a également la mémoire flash à l'intérieur doit être de type SSD, et non pas de type clé USB de base. Quoi. Et puis elle doit être montée en tant que lecteur fixe. Disque interne fixe à la machine lorsqu'elle est montée. Donc c'est plutôt rare. Donc c'est pour ça que.
Ce qui est rare est précieux.
Voilà.
On reboot pour
et
la démonstration. On reboot.
Donc j'ai ici sur ma clé USB déjà fait l'opération précédemment. Ce que je disais tout à l'heure, on peut également le voir ici. Hein, je vois dans mon explorateur de fichiers que je vois mon DVD qui correspond à mon image ISO de Windows que j'ai montée. Je vois mon disque interne, mais je ne vois pas la clé USB, alors qu'elle est bien branchée. Donc on voit bien cette isolation, isolation légère, mais isolation quand même, qui m'évite de faire des fausses manips. Et donc je vais pouvoir rebooter ma machine et démarrer sur la clé USB. Donc au premier démarrage, ce qu'on va constater, c'est qu'il va y avoir une première détection du matériel. Donc ça va prendre un certain temps, il y a un reboot notamment, mais c'est quelque chose qui ne se fera qu'une fois par nouvelle machine rencontrée par la clé USB. À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle machine, on va stocker, Windows va stocker dans une nouvelle branche du registre dans la clé USB toute la configuration matérielle de cette machine. Il la reconnaîtra la prochaine fois, ce qui fait qu'il n'aura pas une nouvelle détection du matériel la prochaine fois. Donc là, ma machine est simplement en train de démarrer, c'est très rapide. Je ne pense pas qu'on le voit sur l'écran, donc je le montre à la caméra. Simplement, l'écran, donc j'ai démarré sur ma clé USB et on voit que BitLocker me demande mon mot de passe. Donc c'est tout bête, hein. Je tape mon mot de passe en QWERTY. Et le temps que l'OS démarre, il va bien s'afficher sur l'écran.
C'est relativement rapide en fait, parce que justement ces clés certifiées, on a imposé en fait certaines normes, comme tu disais, en termes de performance, c'est un critère. Ce qui fait que globalement, par rapport à un PC sur un SSD, on ne va pas avoir une énorme différence non plus sur le temps de chargement. Donc c'est relativement rapide, une fois que le système est chargé, c'est complètement utilisable, la différence est assez moindre en fait. Donc là-dessus, on ne passe pas 2 heures à attendre que le système soit chargé. C'est aussi pour ça, effectivement, on a posé des critères assez durs sur le matériel de la clé USB.
Et non seulement ça, mais ce qui est étonnant également, c'est que sur une machine, puisque c'est censé fonctionner sur des machines qui sont compatibles avec Windows 7 et Windows 8, donc des machines génération Windows 7, donc avec de l'USB 2 également, et ça fonctionne très bien sur des machines qui n'ont que de l'USB 2. Le fait que ce soit du SSD joue beaucoup sur les performances,
bien sûr,
plus manifestement que sur l'interface. Donc une fois que j'ai démarré, ben je m'authentifie. Là, il se trouve que je l'ai déjà initialisé avec un compte local, ce qui n'est pas un cas très représentatif de ce qu'on pourrait montrer vous rencontrez dans une entreprise avec un poste qui serait dans le domaine. Éventuellement, on pourrait faire un offline domain join, hein, rejoindre le domaine sans connexion au réseau interne de l'entreprise. Mmh. On pourrait tout à fait le faire.
Et on pourrait mettre aussi même du direct access,
pour du direct access,
connexion initiale, via,
exactement.
Via cette méthode.
Voilà, le paramétrage.
Donc là, je peux montrer.
Il y a des comptes de cloud aussi, on pourrait faire ça, et avoir un poste vraiment banalisé où il n'y a pas grand-chose dessus, et une partie est consommée dans le cloud, et le reste est consommé à distance sous la forme de services déportés et accessibles depuis les outils qui sont dans la cloud.
Donc très rapidement, hein, on voit que si on lance le gestionnaire de disque, que le disque interne à la machine, qui est toujours présent physiquement, est vu par le système, mais offline. C'est-à-dire qu'il est hors connexion, il n'est pas accessible par le système.
Voilà. Il n'est pas monté. Parfait. Alors, bah, les autres scénarios de déploiement de Windows to Go, qu'est-ce que tu as à nous proposer, Pascal ?
Alors, les deux autres scénarios concernent les scénarios réels en entreprise. Comment on fait pratiquement en entreprise quand on a plusieurs utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs, ça peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou quoi.
Une flotte de clés USB.
Exactement. Donc, il faut acheter déjà les clés USB en masse. Il faut pouvoir les faire et pouvoir les distribuer aux utilisateurs. Donc le premier scénario, c'est un déploiement centralisé où l'IT, donc le département informatique de l'entreprise, prépare les clés USB de façon centralisée avec un script. Alors on peut scripter et quand on pense au script, on va en fait récupérer des scripts qui sont sur TechNet. On a publié des scripts qui font ça, qui vont faire le partitionnement automatiquement sur les clés, qui vont coller l'image de Windows, etc., mettre tout ce qui va bien sur la clé USB et donner ces clés donc aux utilisateurs dans un point central. L'utilisateur vient, récupère une clé qui est standard et puis part avec. Et quand il part avec, il va la démarrer et là lui-même il va joindre le domaine, activer BitLocker et puis préparer son environnement de travail. Éventuellement, il va récupérer automatiquement ses fichiers avec les workfolders ou avec ses paramètres avec UEV ou ses applications avec AppV, enfin peu importe les outils qu'on aura mis en œuvre pour tout ce qui est synchronisation.
Ça, c'est un point important. Souvent, on nous a posé la question, beaucoup de gens pensent qu'un Windows to Go, c'est une réplication d'un poste existant sur la clé USB. Non, en fait, c'est vraiment l'installation d'un nouveau système, donc il faut voir ça comme un autre PC. Hein. Donc on a une clé, c'est un deuxième système, donc une deuxième installation. Et du coup, c'est comme si on avait deux PC. Donc deux PC, effectivement, au moment, il faut se poser la question de la synchronisation. C'est là, effectivement, où des solutions de cloud sont très intéressantes, ou des solutions comme les workfolders sont encore plus intéressantes.
Voilà. Le deuxième scénario d'entreprise de déploiement, c'est le self-service. C'est-à-dire qu'avec les outils de type System Center, donc avec SCCM à partir de la version 2012 SP1, on a des outils qui vont bien pour vraiment bien adapté à Windows to Go. Alors ça fonctionne comment, hein, à grosse maille, hein, vraiment de loin. L'idée, c'est qu'on va utiliser donc les outils classiques de SCCM, hein, donc les séquences de tâches, les task sequence, pour créer l'image. Donc on va générer cette image qui va nous servir ensuite à faire les clés USB, et grâce au mécanisme standard des séquences de tâches. Et ensuite, on va mettre à disposition aux utilisateurs via les mécanismes classiques de SCCM, donc notamment l'application catalogue, un outil pour qu'ils génèrent eux-mêmes leur clé USB. Donc ils viennent avec une clé USB vierge, ils exécutent cet outil qui leur est distribué via l'application catalogue de SCCM, et ça va leur générer une clé Windows to Go personnalisée, une clé Windows to Go pour eux. Donc comment ça fonctionne ? Ça fonctionne au final avec un outil qui s'appelle, tout à l'heure j'ai parlé de pwcreator.exe, là l'outil s'appelle wtgcreator.exe. Donc c'est quasiment le même que le PW Creator de Windows, sauf que lui, il peut prendre des options en ligne de commande.
Et
il y a une séquence d'options qui vont pouvoir automatiser toute cette création, notamment l'activation de BitLocker, etc. La définition du mot de passe de BitLocker, etc. Donc voilà pour ce qui est des deux grandes méthodes de déploiement industriel en entreprise.
Donc c'est pareil, on nous a posé la question, est-ce qu'on peut en même temps installer un certain nombre de clés Windows to Go. Donc on va dire que non, de base avec les outils qu'on fournit, où là on est plus sur l'approche création à l'unité ou création par l'utilisateur, mais il est possible avec des gros hubs USB et une application qui va bien, de paralléliser une installation sur plusieurs clés USB. Des fournisseurs tiers en proposent et on en parlera très rapidement à la fin.
On va en reparler dans quelques instants, effectivement, mais un petit truc qui permet de simplifier le déploiement et l'exécution, surtout de la clé Windows to Go à la maison, Pascal, c'est ces options de démarrage.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un outil qui est présent sur toutes les versions de Windows 8 et Windows 8.1, même celles qui ne sont pas entreprises, même les familiales, et qui permet de configurer la machine pour, de façon à ce que la prochaine fois qu'elle démarre avec une clé USB présente dans un de ses ports, et bien elle démarre sous la clé USB. Donc vous allez me dire, ça sert à rien, puisqu'il suffit d'aller dans le BIOS pour dire, ben, je veux booter sous la clé USB. Or, aujourd'hui, les BIOS, ça se complexifie un petit peu, avec l'UEFI en plus, on ne sait pas trop comment ça marche. Imaginez que vous, en tant que IT, vous devez aller expliquer à tous vos utilisateurs comment configurer leur PC à la maison ou leur PC personnel, s'il s'agit de sous-traitants, etc.
Non, en fait, on n'a pas trop envie.
Non. Donc l'idée, c'est que si vos utilisateurs finaux utilisent des postes personnels ou de leur autre entreprise avec Windows 8 ou Windows 8.1, il suffit de leur indiquer comment exécuter cet outil, de cocher la case « Oui, je veux booter sur une clé USB s'il y en a une » et c'est terminé. Donc cet outil, si on peut passer sur mon écran, il est assez simple à trouver. Tout à l'heure, j'ai fait Windows W, j'ai cherché donc Windows To Go. J'ai fait la même chose. Ici, j'ai une deuxième option. Celle-ci, elle est présente sur toutes les versions de Windows qui s'appelle « Changer les options de démarrage de Windows To Go ». Et là, simplement, je dis « Oui, je veux démarrer sur les clés USB s'il y en a une quand je démarre. » Je sauvegarde les changements et c'est terminé. Alors comment ça marche? Ça, c'est pas magique, hein, ça va pas mettre à jour le BIOS de la machine. Ça met simplement un petit fichier, un petit marqueur sur la partition de démarrage sur le disque, qui fait qu'au démarrage, avant que l'OS démarre, le loader de Windows va regarder la présence de ce fichier-là. S'il est présent, alors il va regarder s'il y a une clé USB et il va donner le contrôle, passer le contrôle à la clé USB. Donc c'est plutôt élégant, mais ça nécessite un Windows 8 ou 8.1 sur le disque de la machine.
Ce qui devrait se généraliser pour les postes personnels, etc. Le renouvellement se faisant en général assez naturellement avec la société de consommation que nous connaissons.
Alors, au niveau des matériels certifiés pour Windows To Go, on a un certain nombre d'exigences en matière de perf en lecture-écriture. Il faut que ce soit un média de type SSD à l'intérieur de la clé USB pour que ça réponde bien et surtout pour que ça ait une durée de vie significative, parce que sinon une clé USB standard n'a pas une durée de vie illimitée. Donc en matière de support de Microsoft, ça veut dire que seuls les matériels qui ont été certifiés Windows To Go, qui ont la bonne étiquette, qui ont le beau logo Windows To Go dessus, c'est uniquement la peine de nous appeler, d'appeler le support Microsoft, dans le cas de problèmes avec ces périphériques-là. Si c'est un problème avec un autre type de périphérique qui n'est pas certifié Windows To Go, on va gentiment vous dire qu'on peut peut-être vous aider, mais dans des limites qui seront très rapidement atteintes, ce qu'on appelle le support commercialement raisonnable. Alors, on a tout un ensemble de matériels qui sont certifiés, qui sont présents sur le marché à l'heure actuelle. Donc là, Pascal, tu nous montres le modèle Data Traveler de chez
Kingston,
qui est le Data Traveler Workspace, c'est une version particulière.
Voilà, de 64 gigas. On l'utilise celle-ci pour nos démonstrations depuis plus d'un an, je pense.
Ouais, depuis plus d'un an maintenant.
Et elle tient la route, c'est-à-dire qu'on l'utilise souvent, quoi. Donc au niveau robustesse, pas de souci, on a testé pour vous.
Voilà. Ensuite,
approuvé par Pascal Solière. Ensuite, approuvé par Stanislas Castana, on a Iron Key.
Oui, alors la petite version Iron Key, qui est la version plastique.
Oui.
Donc ça, c'est la Iron Key, la 3000, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
300.
C'est la 300. Donc là, on est à peu près sur, un équivalent, techniquement parlant, de celle de Pascal.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que, en gros, c'est une clé qui est compatible et qui n'a rien de spécial en plus, elle est rapide, elle est compatible, point.
Tout à fait de bonne facture.
Mais il y a mieux chez Iron Key.
Chez Iron Key, effectivement, on a un bon modèle qui là est vraiment le modèle Iron, puisqu'elle est en métal. Donc c'est la Iron Key W500. Tu remarqueras que le plastique est encore présent pour
la collection.
Pour conserver son aspect brillant et solide à la fois. Donc celle-ci, c'est la W500, et en fait elle est présente pareil en 32, 64, 128 gigas. Petit plus de la maison, c'est que celle-ci en fait elle va faire de la crypto au niveau hardware. C'est-à-dire que toutes les opérations de chiffrement du disque, en fait la clé va faire du chiffrement en plus dès le niveau hardware.
D'accord, donc c'est mieux.
Donc c'est de la bonne protection.
Et par contre, du coup, on s'en doute que c'est plus lourd et c'est plus cher.
Et bon, c'est la sécurité n'a pas de prix, mon cher Stanislas.
Exactement.
On a d'autres modèles également qui savent faire ce chiffrement dès le niveau hardware.
Oui, alors moi j'ai un petit peu plus gros. désolé. Oui. Donc là, c'est une Spirus, une WorkSafe Pro. Et cette Spirus, elle a une petite particularité, au-delà du fait qu'elle est plus grosse que les autres en termes de taille. Donc elle a effectivement également un chiffrement hardware, matériel. Mais en plus, elle intègre également une carte à puce. Mmh. Donc du coup, avec cette, elle a donc un conteneur sécurisé dédié au certificat, équivalent de cette bonne vieille carte à puce qui est le format normalement carte de crédit, hein, généralement. Et du coup, dans un seul périphérique, dans une seule, seul petit bloc de stockage, on a à la fois le système d'exploitation, plus un espace sécurisé pour stocker les certificats, ce qui permet de faire de l'authentification forte, en plus d'être très mobile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on nous a demandé, beaucoup de clients nous ont demandé au départ de Windows to Go, si c'était possible d'avoir en plus un système d'authentification forte intégré à ces périphériques Windows to Go. À ma connaissance, je pense que Spirus aujourd'hui est le premier à proposer ça directement tout intégré, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, la clé est un peu plus grosse, mais finalement, là encore, la sécurité mérite effectivement qu'on y mette un peu le poids. Donc voilà.
Alors on sait que c'est effectivement pas la taille qui compte, mais Spirus a annoncé une clé de 256 gigs également tout récemment.
Oui, donc ça c'est la taille du stockage, pas, ouais. Pas la taille
du matériel. Non, ce sera à peu près la même taille hein, au niveau
oui,
physique.
Cas, ouais. Mais donc voilà. 256 gigas, c'est-à-dire qu'on est au-delà de beaucoup de PC aujourd'hui qui ont du SSD et qui ont juste 128 gigas de SSD. Donc c'est tout à fait acceptable. En plus, si on veut, si on est vraiment un gros écureuil et qu'on a plein de données, on peut tout à fait combiner ça avec un service de stockage en nuage. D'ailleurs, c'est fait pour.
Eh bien, une bonne séance de télé-shopping concernant les clés compatibles et certifiées Windows to Go ouais. À l'heure actuelle.
On n'a pas cité Western Digital qui, eux, ne font pas une clé USB mais un disque dur.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sur 500 gigas, eux, avec des performances comme on leur demande. Par contre, c'est au format d'un disque dur externe avec un petit cordon USB.
Ouais. Voilà. Mais ce sera de toute façon moins rapide qu'une clé en pure SSD comme celle qu'on vient de voir.
On est entièrement d'accord.
Alors les solutions tierces apportent un certain nombre de choses, notamment pour le chiffrement matériel, on vient de le dire, hein, ce que ouais. Capable de fournir Iron Key ou Spirus en matière de chiffrement hardware et puis en matière d'authentification forte aussi. Donc rajouter cette fonctionnalité dont tu nous parlais au niveau de la carte à puce. En matière de provisioning aussi, ils nous fournissent des outils supplémentaires.
Tout à fait, oui. Ils sont mis sur les créneaux des outils de provisionnement, qui est assez intéressant d'ailleurs, puisque c'est toujours intéressant d'avoir des options supplémentaires. Et c'est là notamment qu'il y a des options d'utilisation de hub USB 3 permettant de provisionner plusieurs clés en même temps grâce à leurs outils, notamment chez IronKey. Spirus aussi a un outil de déploiement spécifique. Et puis des outils d'administration aussi qui se rapprochent un petit peu des MDM par certaines fonctions. Qui ont l'air assez sympathiques chez IronKey et chez Spirus également.
Et le principe, effectivement, c'est qu'un agent tourne sur l'OS et donc la clé associée à l'OS. Mmh. Et cet agent, en fait, qui est un agent de management tout à fait classique, hein, utilisant les protocoles Exchange Active Sync, permet éventuellement, en cas de vol de la clé, de redémarrage, si elle arrive à redémarrer, de wiper à distance le contenu, etc. etc.
Ça, elle s'autodétruira, on a l'impression d'être un petit peu le James Bond du bureau.
Je dirais le Phebs, Monsieur Phebs de Mission Impossible pour l'autodestruction.
Un peu de précision ne fait pas de mal.
Exactement.
Vous en voulez plus? Eh bien, n'hésitez pas. Dièse Cour MVA en nous contactant. Pascal, Pessolière, Stanislas, Esquastana et moi-même, Arnaud Lheureux. Merci beaucoup, messieurs.
C'est là qu'on rajoute le petit hashtag.
Le hashtag Cour MVA.
Voilà. À bientôt.
À plus.
Salut.